qu'est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des travailleurs du commerce et des industries de l'alimentation, mais plus encore, qui en fonction de l'actualité politique, des commémorations, des luttes sociales ou de rencontres de personnes animant des projets de société pouvant être une alternative altruiste et autogestionnaire à la société de classe dans laquelle nous vivons, l'anime en direct chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, sans retenue ni complaisance, sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Suspense.
Édito du monde merveilleux du travail du lundi 5 mai 2025 du calendrier grégorien, équivalent au 16 floréal du calendrier révolutionnaire français, officiellement dénommé jour de la consoude. Cette plante, dont le nom vernaculaire vient du bas latin consolida, consolidé, par allusion à ses vertus médicinales longtemps utilisées pour accélérer la consolidation des fractures. Et de fractures sociales, il en sera question ce soir pour évoquer les zones à faible émission avec notre invité Jean-Marc Bellotti de la FFMC Paris, qui est venu nous parler du mouvement populaire Les Gueux, qui s'oppose au ZFE. Mais avant de lui laisser la parole, en ce 5 mai 2025, nous aurons une pensée émue pour les édiles du Parti Socialiste qui se sont fait chahuter lors de la manif du 1er mai et pour lesquels je ferai un billet d'humeur spécial lors de la prochaine émission. Ce parti de droite qui n'a de socialiste que le nom et qui pourtant tire sa substantifique moelle du socialisme de Jaurès, le chantre du marxisme français, vous n'êtes pas sans ignorer, chers auditeurs et chères auditrices, qu'aujourd'hui c'est la 127e année de la naissance de Karl Marx. Eh oui. Et que paraissait en 1912 le premier numéro du journal bolchevique, la Pravda, en Russie. Hein, quel bel héritage ils nous auront laissé. Hormis le décès de Napoléon, un 5 mai 1821, le dessinateur ciné nous quittait en 2016, non sans avoir été calomnié d'antisémitisme, à tort bien évidemment, une accusation qui est depuis devenue à la mode et servie à toutes les sauces pour discréditer un contradicteur. Et je terminerai avec Sacco et Vanzetti, deux camarades anarchistes contradicteurs, de l'ordre social aussi, dont le sort était réglé un 5 mai 1920 dès leur arrestation, puisque la justice n'était pas non plus l'objet de leur arrestation, mais plutôt de frapper la contestation libertaire en Amérique. Trump n'était pas loin déjà. Et de frapper fort, comme pourraient dire les forces de l'ordre républicaines de la brave M chez nous. C'est Bénédicte, ce soir, qui assure, enfin encore ce soir, assure la technique régie et qui, malgré mes menaces digitales et mes froncements de sourcils coléreux, n'en fera encore qu'à sa tête. Eric ne nous apprendra pas la mécanique thermique ce soir, mais restituera les mécanismes historiques des politiques liberticides, peut-être. Vas-y, la régie fait brombir les décibels.
J'ai senti un fatalisme dans le « encore ce soir », la technique.
Bah, très léger, hein.
Ben, envoie la sauce.
Just remember, I don't live too far.
J'ai coupé un peu trop tôt. Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. Et c'était Bad Motor Scooter du groupe Montrose.
Rose. Oui, oui, j'ai prévu une playlist qui tourne autour de la moto. D'abord, ça me fait plaisir.
Original.
Je n'ai pas souvent l'occasion d'en mettre. Donc voilà. Hein. Donc les ZDFE. Donc déjà, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
C'est pas la première fois que tu viens. On t'a déjà reçu.
Ouais. Deuxième fois.
Il y a deux ans, trois ans. Ouais, c'était. C'était en 20 juin 2002. On a fait une rediffusion 2022. De l'émission il y a 15 jours. Où on parlait, là c'était surtout, c'était plus axé sur les stationnements payants, ouais, et les contrôles techniques. On pourra peut-être revenir un petit peu dessus, ouais, mais là aujourd'hui c'est pour les, essentiellement les ZDFE et par le biais notamment d'un mouvement populaire, ouais, qui s'appelle Les Gueux.
C'est ça.
Dont tu vas nous parler. Voilà.
Alors, les Gueux.
Peut-être que tu vas pouvoir nous dire comment ça s'est constitué. Autour, ouais, de qui ça s'est constitué et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les attentes et qu'est-ce que vous comptez obtenir, tous. Je te laisse la parole, à moins que...
Oui, l'idée, ce qu'on a fait en antenne, c'est qu'on a fait un petit plan, hein, ça t'embête pas. On va déjà présenter les grands éléments, hein, de base. Hein. Alors, on a dit les acronymes, hein, ZFE, ZCR... au préalable, il y avait
Zappa.
Alors
c'est pas Franck. Hein.
Pas Franck, moins drôle. Et moins bon, surtout. Donc il y a une histoire, c'est très court, hein, c'est sur une dizaine d'années, on va dire,
que c'est sont 2010.
Mises en place la législation autour de ces zones particulières de circulation, on va dire.
Ouais, et c'est puis, bien la loi d'orientation de mobilité, en fait, la LOM.
Et qu'ensuite, on va voir très vite quelles sont les métropoles qui sont touchées. On va voir que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, parce que Il y a des métropoles, il y a cette seuil de 150 000 habitants par métropole, qui sont les villes concernées, mais ça dépend aussi des prélèvements dans l'air, donc de la qualité de l'air, qui va ensuite déterminer le nombre de critères, de voitures critérisées et le numéro de la critérisation autorisée ou pas à circuler. Et très vite, les auditeurs vont s'apercevoir que c'est quand même un peu foutard.
C'est une usine à gaz.
Ouais. Et donc pour circuler, ça va devenir assez bizarre. Quoi.
Ouais.
Alors que l'idée, c'est quand même effectivement, c'est d'avoir de l'air de bonne qualité dans ce pays. Ça, c'est une chose. On est tous d'accord là-dessus.
Mm-hmm.
Le problème, c'est qu'on se heurte par des mesures de restriction qui sont des mesures pas toujours très, je vais dire, démocratiques, au sens auquel nous l'entendons, nous, dans le monde merveilleux du travail. Il n'y a pas de, comment dire, y a pas de prise en considération des besoins, évidemment, des populations concernées. On se mettrait tous autour d'une table et puis on dirait, bah, effectivement, on veut... Mais alors, en face, on veut bien rouler moins, ou rouler plus propre, mais en face, qu'est-ce que vous mettez? Parce que nous, on n'a pas forcément les sous pour rouler moins ou rouler plus propre. Donc, qu'est-ce que vous mettez collectivement? Qu'est-ce que nous mettons collectivement en place aussi pour faire la balance, hein, pour rééquilibrer et qu'on respire de l'air propre, qu'on puisse circuler? Ça, c'est la grosse problématique de l'émission. Donc, ZFE, ZCR...
Alors, ça a commencé en 2010, hein, la loi d'orientation de mobilité. C'est une directive, comme d'habitude, qui vient de l'Europe. L'Europe n'a pas demandé de mettre en place des ZFE. L'Europe a demandé de prendre des mesures contre les dépassements de seuil de pollution dans certaines villes. Donc, il y a 10 ans, ça s'appelait ZAPA, Zone d'Action Prioritaire de l'Air. Et nous, très rapidement, on a identifié que c'était un truc totalement antisocial. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui portait ça sous le règne de Sarkozy. Et donc, on est allé la voir en lui disant attention, les ZAPA, votre truc, c'est un truc méchamment antisocial et ça va vous péter au nez. Donc, on va mettre ça en place tranquillement, vous inquiétez pas, on fera de la com là-dessus. Tout, voilà. On a dit, c'est pas une question de com, c'est une question qu'il y a des gens qui pourront pas. Bref. Et bon, ça s'est un peu calmé. Voilà. C'est un peu, comment dire, ils ont levé le pied un peu là-dessus. Ensuite, c'est revenu avec les ZCR, zones à circulation restreinte. C'était le deuxième essai. Et puis comme ils ont vu que c'était un peu dur quand même, comme nom, zone à circulation restreinte. Donc ils ont changé le nom et ils ont appelé ça ZFE, zone à faible émission. Ce qu'on appelle, nous, les zones à forte exclusion. Donc l'idée, elle est simple. L'idée, c'est de dire, voilà, pour les métropoles qui dépassent les normes de pollution, c'est pas constant en plus, hein, c'est parfois, donc on va mettre en place des ZFE. Sauf que, aujourd'hui, par rapport à la loi où ça a commencé, quand ça a commencé à être mise en place cette loi. Aujourd'hui, il devrait y avoir 45 métropoles qui devraient mettre en place les ZFE. Il n'y en a pratiquement plus que deux, Paris et Lyon, des grandes métropoles, qui dépassent le seuil. Toutes les autres ne les dépassent plus. Donc, à un moment donné, pourquoi mettre en place des choses qui ne servent plus à rien, okay? Alors, pourquoi ça ne dépasse plus? Tout simplement parce qu'à un moment donné, les constructeurs ont aussi beaucoup fait d'efforts. On ne parle pas des escrocs de Volkswagen qui, effectivement, ont magouillé leur moteur. Et, en tout cas, les normes. Mm. Donc, les constructeurs, en règle générale, ont fait des efforts. Et surtout, il y a un nouveau parc qui arrive doucement, hein, tout doucement. Et puis surtout, il y a aussi la mort naturelle, je dirais, du parc ancien. Voilà. Et puis il y a plein d'autres choses aussi. Hein. Je veux dire, maintenant, les industriels aussi font quelques efforts. Parce que, alors, Bien évidemment, il ne s'agit pas de lutter contre l'écologie, hein. Ce serait une aberration, parce qu'on a tous compris qu'il y avait un effort à faire, et surtout qu'il y avait une urgence climatique, et qu'il fallait s'en emparer. Bon, parce qu'il c'est vite fait de se faire traiter de populiste ou de climato-sceptique dès qu'on tente de défendre quelque chose. Hein. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, nous, la Fédération française des motards en colère, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il est question surtout de dire, OK, une écologie, oui, bien sûr, mais pas sans et contre la population, contre les citoyens.
Et notamment contre les citoyens les plus, enfin, les plus
pauvres. Et notamment les moins aisés. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, cette politique des aides et feux, d'ailleurs, ceux qui les ont votés, tous les élus qui les ont votés, qu'ils soient de droite ou de gauche, commencent à revenir dessus. Parce qu'on les a tellement alertés, et parce qu'il y a des mouvements qui se mettent en place, qu'ils commencent à se dire, ouais, effectivement, ça craint. Bon. Moi, on m'a toujours dit que gouverner, c'était prévoir, anticiper. Bah, apparemment, ils n'ont pas anticipé ça. Hein. Pourtant, on les a prévenus. Hein. Et donc, ils disent, ouais, effectivement, c'est une bombe sociale. Et comment des gens qui ont qui ont fait l'ENA, qui ont des conseillers, à droite à gauche pour les aider, comment ils n'ont pas, à un moment donné, repéré que ça leur pétait au nez. Voilà. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a Paris et Lyon qui dépassent encore les normes. Donc, dans pas mal de ZFE, dans toutes les autres zones à faible émission, c'est-à-dire dans les autres métropoles, il n'y a plus besoin de mettre en place les ZFE. Voilà. Et le parc va de plus en plus s'améliorer, forcément. Mais aujourd'hui, le problème est qu'on dit aux gens qui n'ont pas les moyens, parce que c'est eux qui sont visés. Aujourd'hui, si vous achetez un Porsche Cayenne, par exemple, je dis un Porsche Cayenne, je ne vais pas faire de publicité pour Porsche, un gros SUV hein, de dernière génération, qui bouffe 15 litres au 100, et ben vous avez une critère 1. C'est-à-dire vous avez le droit de rentrer, vous roulez partout où vous voulez. Et si vous avez une vieille Twingo qui bouffe 5 litres au 100, et qui pèse pratiquement 3 fois moins lourd, et ben vous n'avez pas le droit. Alors on marche sur la tête quand même. Surtout qu'on parle de particules fines, d'accord ? Et les particules fines, elles sont émises, alors, en partie par les moteurs diesel, tout le monde ne roule pas au diesel, et surtout, elles sont émises par le freinage et par l'abrasion des pneus sur l'asphalte, d'accord ? Donc, plus un véhicule est lourd, plus il émet de particules fines. Et c'est là où le bât blesse, parce que tous les véhicules électriques, de par leur batterie, sont extrêmement lourds. D'accord ? Et c'est eux qui émettent le plus de particules fines. Voilà. Donc, il y a quand même mal donné, là, quelque part. Voilà. Mais eux, ils payent. Malus écologique, machin, etc. Donc, ils ont le droit de polluer. Donc, en gros, la pollution, c'est une affaire de riches. J'ai des sous, je pollue. J'ai pas de sous, je reste chez moi. Alors, cette problématique-là, elle est extrêmement grave, dans la mesure où, si on prend des grandes villes, comme Paris, Marseille, Lyon, etc., bon, qui sont de plus en plus chers. Et donc, il y a un report de la population vers la banlieue. Petite banlieue, puis grande banlieue, puis très grande banlieue. Voilà. Tout ça, ça génère... Alors, parce que les gens n'ont pas les moyens de se loger dans les centres-villes ou dans les grandes villes. Tout ça, ça génère du besoin de transport, forcément, puisque bah, les gens, ils bossent, ils déménagent, ils ne trouvent pas forcément un boulot à côté de chez eux. Bon. Mais ce besoin de transport n'est pas compensé par la mise en place de transport. Donc, en gros, on interdit aux gens d'utiliser leur véhicule jugé ancien, mais on n'a pas mis d'alternative en place. Et ça pose un vrai problème social. Et c'est ça qu'on dit, nous. Alors, par exemple, à Paris, effectivement, quelqu'un qui habite dans Paris-Centre, une ville, je souligne, qui s'est totalement gentrifiée. Hein. Moi, j'habite à Paris depuis toujours. Quand j'étais gamin, j'étais apprenti menuisier. Saint-Antoine, c'était que des ateliers de menuiserie, machin, etc. Aujourd'hui, c'est des bars branchés, d'accord ? Donc, c'est une ville qui s'est totalement gentrifiée. Alors, ils ont beau, les bobos, de rouler à vélo, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, parce que quand on habite dans une ville comme Paris, on a le métro, on a le tram, on a le vélo, on a les taxis, on a les bus, on a tout ce qu'on veut. On peut rouler dans Paris. Paris est un exemple mondial puisque 100% des Parisiens ont accès à un transport en commun rapide en bas de chez eux, à moins de 100 mètres de chez eux, hein, une centaine de mètres de chez eux. C'est un exemple. Sauf que dès que vous arrivez en petite couronne, c'est 80% des gens qui ont accès. Et puis quand vous arrivez en province, c'est 80% des gens qui n'ont pas accès au transport en commun.
Ok. Donc, il y a des métropoles, des grandes métropoles, dans lesquelles, et ça c'est la province, c'est encore pire que Paris, dans lesquelles sont inclus des petits villages qui sont à 10 bornes du premier village, à 5 bornes de l'autre et à 30 bornes de la ville. Elles sont incluses dans la métropole. Alors, non seulement les gens qui y habitent n'ont aucun moyen de transport en commun, en plus, ils ne peuvent pas aller en ville, mais mieux, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont inclus dans les métropoles, donc même s'ils sortent la bagnole du garage, ils peuvent prendre une prune. On marche sur la tête dans ce pays, quand même. Socialement, ça pose un vrai problème. Donc, c'est ce qu'on dit. À mon avis, il faut revenir là-dessus. Il faut annuler ces aidés-feux. Nous, on demande l'annulation des aidés-feux. Et puis, de toute façon, à un moment donné, le parc se renouvellera, mais sans faire des dommages collatéraux et sans laisser des gens sur la paille. Parce que quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, même avec les aides, d'ailleurs les aides du gouvernement se sont diminuées drastiquement, puisqu'ils ont compris qu'à un moment donné ça coûtait quand même un maximum de blé. Non seulement se sont diminuées drastiquement, mais même si on donne 4000 balles ou 5000 balles pour acheter une bagnole à 20 000 balles, ça laisse encore 15 000 balles de crédit. Il y a des gens, ils ont même pas, au 15 du mois, ils sont déjà dans la merde. Qu'est-ce qu'on va leur demander de prendre un crédit pour acheter une bagnole? J'ajouterais que, à un moment donné, les écolos, quand ils disent que il faut mettre des aides en place pour les gens, c'est bien, c'est gentil. Sauf que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'utiliser de l'argent public, parce que les aides, c'est de l'argent public. On utilise de l'argent public pour financer des boîtes privées qui construisent des bagnoles. Ah, ça pose un problème aussi, là. Hein, parce que, à un moment donné... Moi, je ne suis pas anti-écolo, hein, je suis anti-écolo-facho. Et malheureusement, on en a de plus en plus. Et ces écolo-fachos qui disent « on est contre la surconsommation, on est contre la surindustrialisation, etc. », on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de financer l'industrialisation. Si on donne des subventions à des gens pour acheter des bagnoles, on finance l'industrialisation. Voilà, bon, ça c'est la petite... petit aparté politique, mais en même temps, les pauvres gens qui, eux, n'ont pas les moyens de rouler, s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se déplacer, avoir la liberté de circuler, d'aller à l'hôpital, d'aller au boulot, d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire des loisirs, hein, ils ont le droit, voilà. Mais non, on leur interdit. Et ça, c'est pas entendable. C'est pas entendable dans un pays comme l'autre, parce que, en fait, le problème, c'est que quand on trie des véhicules, c'est pas des véhicules qu'on trie. C'est des êtres humains. C'est les êtres humains qu'il y a dedans qu'on est en train de trier. C'est pas les bagnoles. Hein? Alors, nous, la Fédération Française des Motards en Colère, ça fait longtemps qu'on s'est emparé de ça. Et au départ, on bossait que pour nous, enfin, on bossait pour les motards. Mais là, on bosse pour tout le monde. Et c'est pas notre intérêt de bosser pour tout le monde. Parce que nous, on a avantage par rapport aux usagers en voiture. C'est que nous, usagers de roues motorisées, on n'émet pratiquement aucune particule fine. En termes de pollution, je dirais que le deux roues motorisées, à part le vélo, on est d'accord, le vélo, c'est la meilleure des solutions. Mais tout le monde n'a pas les moyens de venir à 30 bornes ou 40 bornes de banlieue à Paris ou de banlieue dans les grandes villes avec un vélo.
C'est lié faible.
Mais ni l'envie non plus. J'ai pas envie de rouler en vélo.
Donc, en fait, le deux roues motorisées, c'est extrêmement une bonne solution pour se déplacer. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins lourd qu'une voiture. Parce que ça consomme beaucoup moins, parce qu'à même distance, comme elle n'est pas soumise au bouchon, on va rouler beaucoup moins longtemps, donc c'est beaucoup moins polluant. Parce que le système de... Parce qu'on n'a que deux roues, alors que les bagnoles ont quatre, et on parlait des particules fines tout à l'heure avec l'abrasion des pneus sur la route, ouais, le système de freinage moins important.
Voilà, puis on ne freine pas deux roues, il faut pas aller...
Il faut être à lâche pour freiner en deux roues.
C'est pas des lâches.
Voilà, donc en gros, nous, on a tout un tas d'avantages, et c'est qu'on a des arguments pour ne pas être intégré dans ces aides-feux, pour avoir le droit de rouler dans ces aides-feux, on peut le faire, ça. Sauf que là, on s'est dit, mais là, c'est quand même pas possible, quoi. Là, c'est pas un combat de motards, là, c'est un combat pour tout le monde. Malheureusement, il n'y a que nous qui bougeons, il n'y a que les motards qui bougent, parce que moi, même les automobilistes, ils ne bougent pas. Là, on a fait une manifestation le 6, alors il y a des associations d'automobilistes qui nous ont rejoints, mais voilà, ils sont venus à trois représentants de l'association, à pied, Les automobilistes, ils se bougent pas. Bon, en même temps, quand ils se bougent, ça fait un bouchon. Mais il y a déjà pas mal des bouchons.
Mais je crois que les motards
se mobilisent parce que être motard, c'est déjà avoir un certain état d'esprit, c'est aimer sa liberté avant tout. C'est tout un tas de choses qui font que. Mais ils bougent pas plus que ça, les caisseux. Et pourtant, ils sont extrêmement impliqués dans ce problème-là.
Ils ont bien conscience qu'ils sont impactés. Que ça va leur créer des problèmes, mais ils sont quand même relativement, enfin ceux que je connais, ils sont quand même très résignés. Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est que d'autres agissent pour eux, mais après c'est vrai quand on voit en fait, enfin ces dernières années, en tout cas quand on voit comment sont menées les politiques sociales, enfin comment passent les lois à coup de 49-3 ou la répression qu'il y a quand tu sors dans la rue pour contester. C'est vrai que on finit par plus bouger. Hein.
Disons qu'il y a une partie de la population, une très faible partie de la population que ça agace et qui vont lever la tête et qui vont combattre ça. Et puis, comme d'habitude, il y a la grande majorité de la population qui, de façon, ils sont fatigués d'entendre tout ça. Ils disent, de toute façon, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur porte. En France, on a une classe moyenne. On a une grosse classe moyenne en France. Hein. Malheureusement, il y a de plus en plus pauvres, parce que même la classe moyenne commence à s'appauvrir. Je ne parle pas des très, très riches, qui, eux, s'enrichissent de plus en plus. Eux, ils sont une toute petite portion, puis ils en ont rien à foutre. Mais je parlerai plutôt de la classe moyenne et des plus pauvres. En fait, la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, j'ai la traite du pavillon à payer, j'ai la traite de la bagnole, j'ai les gamins à l'école, c'est fini la révolution, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que tout le monde a trop de choses à perdre. La révolution, elle se fait, ou en tout cas, le coup d'éclat, il va se faire quand il n'y a plus rien à bouffer, quand il n'y a plus rien à l'assiette, et que tu ne peux plus faire autrement, sinon tu ne survis pas. Voilà. Donc là, ça ne se passera plus. Il y a eu un essai raté avec les gilets jaunes, on a vu ce que ça a donné. Et surtout, nos élus politiques n'ont pas compris la leçon. Parce que c'était quand même une leçon, les gilets jaunes, quand même, à un moment donné. Mais ils n'ont pas compris la leçon. Voilà, ils continuent à faire comme ils faisaient avant. C'était bien, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Ils continuent. Mais oui, bien sûr que les gens s'agacent. Ce qui donne, effectivement, des votes dans les extrémités, puisque les gens ne trouvent plus leur compte chez les élus que nous avons actuellement, parce que c'est des gens qui, pour moi, sont hors sol. D'ailleurs, le type de gouvernance qu'on a aujourd'hui, pas qu'en France d'ailleurs, mais moi je m'amuse toujours à dire que, en fait, un élu aujourd'hui, il bosse d'ailleurs pour sa carrière. Le fauteuil, il est pas mal. Hein. Donc, ils bossent d'abord pour eux. Okay. Ensuite, ils vont bosser pour leur parti. Et je vois, d'ailleurs, ils ne se parlent pas entre partis. Ils vont me laisser parler. Hein. Parce que c'est... Voilà. Moi, je considère que tous les partis ont quelque chose à dire, même si je suis pas pro-parti du tout. Mais tous les partis, tous les gens qui sont des partis, il n'y en a pas un parti qui dit que des conneries, d'autres qui dit que des trucs bien. Ils ont chacun des choses à dire et des choses bonnes à dire. Mais voilà, ils bossent ensuite pour leur parti. Qu'ils appellent maintenant, quand même, c'est incroyable, famille. Ça s'appelle plus un parti, c'est ma famille politique. La mafia, les familles maintenant. Voilà. Hein? Et puis ensuite, quand il reste un peu de temps, ils vont peut-être bosser pour les cons qu'ils ont élus. Voilà. Voilà comment ça se passe, malheureusement. Parce que moi, je vois le comportement, j'en rencontre plein des élus. Hein. Souvent, j'en rencontre, parce qu'avec la FFMC, forcément, on rencontre beaucoup d'élus pour essayer de défendre notre liberté. Avant les élections, ils sont sur les marchés, ils distribuent des flyers, machin, etc. Ils courbent les chines, ils écoutent tout le monde. Après l'élection, une fois qu'ils sont libres, ils sont tout seuls à appuyer sur le bouton, et là, ils n'ont plus rien à secouer, impossible d'avoir un rendez-vous. Alors, avant l'élection, on est à peu près en démocratie, okay, et puis après l'élection, on est en démocrature. C'est-à-dire qu'en gros, ils font ce qu'ils veulent. Les mecs, ils ne t'écoutent pas, tu prends un rendez-vous, tu l'as au bout de 6 mois, et encore... S'ils n'ont pas perdu ton mail, enfin bref, c'est un enfer de les rencontrer, ces gens-là, et d'essayer de discuter avec eux. Voilà. Donc, en gros, pour en revenir aux ZFE, parce que c'est un peu le sujet de notre débat aujourd'hui, c'est que c'est une mesure totalement antisociale, et qu'effectivement, les gens commencent à bouger maintenant, à peu près, un petit peu, mais parce que, comme d'habitude, on attend d'avoir le mur, d'être au pied du mur, de l'avoir en plein dans la tronche pour pouvoir bouger, mais souvent, c'est trop tard. C'est en amont qu'il faut bouger pour essayer de faire des choses. Oui. Voilà. Mais les gens, c'est installé depuis quelque temps déjà, les ZFE sont en place. Hein. Sauf que il n'y a pas les moyens de rétorsion. il n'y a pas les moyens de verbalisation. N'ont pas été mis en place parce que le gouvernement n'a pas lâché les sous pour mettre en place tous les radars, les machins, les caméras, etc., de tout ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Ils n'ont pas les sous, donc ils n'ont pas mis en place. Donc les gens, ils se disent, ouais, oh, bah, quel est des feux. C'est un truc qui ne leur parle pas plus que ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait fait un sondage, il y a 70% des gens qui ne savaient pas trop ce que c'était qu'une ZFE, qu'on n'avait pas vraiment entendu parler. Ou ça ne les intéressait pas. 70% des gens, c'est énorme, quoi. Alors qu'il y a 80% des gens qui sont concernés. Donc voilà. Et.
Maintenant,
c'est toujours pareil, comme il n'y a pas la prune.
Hein, ah ben après, ils vont tous écouter l'émission, ça sera fait.
Ah ben là, j'espère qu'ils vont être au courant. Hein. Mais tant qu'il n'y a pas la prune, ils ne bougent pas. Après, quand il y a les maillons de prunée, ils disent, oh ben, putain, j'ai pris une prune. Voilà, c'est malheureux, hein. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça.
Eh ben, c'est pas très gai.
Non,
mais en même temps.
Mais oui, alors, moi, je pensais, effectivement, ben, je vais revenir un petit peu à nos élus, à nos édiles. Mais. Ils pensent qu'à eux, sans doute, mais ils pensent...
À tous, il y en a qui sont bien.
Oui, bien sûr.
On va dire ça.
Dans la majorité, non, mais la majorité des cas, effectivement, je crois que la population a un petit peu le même regard sur les élus. Hein. En fait, ils ont, avec toutes les affaires qu'on a pu rencontrer, effectivement, ils enrichissent, ils font ils enrichissent leur famille en faisant des fausses déclarations d'assistants parlementaires ou quoi que ce soit. Bon, bref.
Alors, il y en a qui se font gauler, il y en a qui ne se font pas gauler, mais ils le font tous. Hein.
Oui, les plus cons se font gauler.
C'est quand même...
Mais je pense... alors, moi, je ne sors pas trop de Je ne sors pas de Paris, donc je connais que Paris et Anne Hidalgo et sa politique comme ça, effectivement, circulation, enfin, la mise en place de
qui, comme
politique
tu de circulation. Tout à l'heure, n'a de socialiste que le nom.
Exactement. Je ne sais même pas si elle se revendique encore du socialisme. Enfin bref, elle a besoin de satisfaire un électorat,
oui.
Un électorat qui est effectivement cette frange bobo de centre-ville, avec plutôt un bon revenu. Donc elle met en place, elle dépense de l'argent pour mettre en place effectivement des pistes cyclables. Est-ce que ce greenwashing n'est pas un prétexte de... Enfin, c'est le prétexte écologique. Est-ce que ce n'est pas un prétexte aussi pour... j'ai envie de dire racketter, mais ce n'est pas comme ça qu'on le présenter. Mais effectivement, mettre un maximum d'amendes. Alors, pour satisfaire la population qui va avoir moins de voitures dans son environnement direct. Mais est-ce qu'ils savent... Je pense que les élus savent très bien que tout le monde ne peut pas changer de voiture comme ça du jour au lendemain.
Bien
parce
sûr.
Que, effectivement, ceux qui viennent travailler des zones, enfin des villes périphériques, ils viennent travailler les week-ends. Hein, parce que nous, on travaille dans le commerce. Donc, on est ouvert le samedi, dimanche, les jours fériés. Et là, les transports, tu peux y aller hein, pour avoir des. Et quand tu habites à Pétaouchnok, pour avoir un transport en commun, bonjour. Donc, tu es obligé de venir en voiture. Et en général, tu te payes une prune parce que tu ne sais pas trop comment régler les stationnements. Enfin, bref. Mais est-ce que c'est pas. Effectivement, c'est pas. Il n'y a pas une. Tu ne penses pas qu'il ne pourrait pas y avoir une volonté des élus d'effectivement de tout faire payer, les stationnements, que ce soit pour les deux roues ou pour les quatre roues, et de foutre des amendes à tous ceux qui n'auront pas le critère 1 quand ils rentrent dans des grandes villes, et Paris notamment, parce que je connais surtout Paris.
De toute façon, alors Paris c'est très spécifique. Paris c'est spécifique parce que déjà c'est un département ville, et puis tout ce qui se passe à Paris n'implique pas que Paris. Ça implique énormément toutes les autres communes autour. Petite couronne ou grande couronne. Ça impacte toute l'Île-de-France. C'est-à-dire que quand Anne Hidalgo, elle décide de mettre le périph à 50, ça impacte toute l'Île-de-France. D'ailleurs, pratiquement 80% des gens, il y a eu un sondage, 80% des gens étaient contre le périph à 50. Elle l'a foutu quand même, elle en a foutu. Pourquoi ? C'est simple. Et là, il y a un vrai problème de gouvernance, puisque Paris, en fait... on a 70%, je crois, des ménages qui n'ont pas de véhicule, n'ont pas de voiture. C'est vrai que si tu es dans Paris, tu n'as pas besoin de véhicule. Ouais. Quelque part, tu as le vélo, t'as, comme je disais tout à l'heure, tu as tous les moyens de transport que tu veux. Si tu fais Paris-Paris, ok. Puis après, quand tu dois partir en vacances, bah, tu prends le train, tu prends l'avion, enfin, bref. Bon. Donc, effectivement, qui est-ce qui vote pour Anne Hidalgo ? Enfin, qui vote pour le maire de Paris, le ou la maire de Paris, Anne Hidalgo ou quelqu'un d'autre, hein ? Ben, c'est les Parisiens. Donc les Parisiens, eux, ils disent, on ne veut pas de bagnole chez nous, on ne veut pas être dérangé dans l'un, mais donc c'est eux qui votent pour elle, voilà. Bon, après, il y a un système d'élection à Paris, hein, avec le système des grands électeurs, machin, etc. Bon. Mais les gens qui sont le plus touchés dans l'histoire, ce n'est pas les Parisiens. Quand Anne Hidalgo, elle prend une mesure dans Paris, ce n'est pas les Parisiens les plus touchés. Au contraire, ils sont protégés. C'est ceux qui sont autour, c'est les pauvres cons, c'est les gueux qui sont autour, qui sont les plus touchés. Et eux n'ont pas leur mot à dire. Et moi, je m'étonne toujours, j'hallucine, parce qu'on a quand même une métropole du Grand Paris, que les maires de banlieue ne s'en offusquent pas. Que les maires de banlieue ne disent rien par rapport au fait que leurs administrés sont malmenés par la ville de Paris, quand ils vont dans Paris. D'ailleurs, il y a de plus en plus de banlieusards qui disent « c'est fini, on ne va plus à Paris bon, ». Voilà. Après, les pistes cyclables. Bon, honnêtement, qu'il y ait des pistes cyclables à Paris, c'est pas gênant, au contraire. Je pense que c'est bien. Il faut aussi que les cyclistes, alors à Paris ou ailleurs, mais que les cyclistes puissent, parce que c'est bien de développer le vélo quand on peut, c'est toujours mieux. Que les gens puissent circuler en sécurité. Paris, c'est un peu la jungle, quand même. Avec des pistes cyclables, bon, voilà. Aujourd'hui, tu peux prendre ton gamin, tu roules sur une piste cyclable, tu ne risques pas de se faire écraser par une bagnole, enfin, en tout cas, moins de risques. Pourquoi pas? Bon, c'est juste qu'elle a fait ça à l'arrache. Elle a fait ça au forceps, comme d'habitude. Après, de temps en temps, effectivement, peut-être qu'il faut y aller un peu fort pour que les gens acceptent. Sauf que là, les travaux dans Paris, c'est une abomination, il y en a partout. Bref, ça devient une ville extrêmement difficile pour circuler. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec Paris, là, aujourd'hui? Elle est en train... Bon, Paris a été énormément transformé, hein, et c'est pas d'aujourd'hui, ça s'est toujours transformé. De toute génération, ça s'est transformé. Haussmann, il a transformé tout. c'est un truc de... Voilà, mais bon, c'était... Voilà, il y avait la peste, la choléra, tout le bordel. Il fallait hygiéniser un peu le bordel. Il a un peu élargi les voies pour que la force publique puisse intervenir.
Mais c'était surtout ça.
Voilà. mais bon, Paris a changé à chaque fois. Bon, mais là, sauf que... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Paris est réservé aux Parisiens et aux touristes. Voilà, parce que c'est une des les villes les plus visitées au monde, quand même. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Quand on vient en vacances ou qu'on vient un week-end, c'est sympa. Paris, c'est romantique. Moi, j'habite à Paris aussi, j'adore ma ville. Mais pour ceux qui y bossent, surtout qui viennent de banlieue, c'est un enfer. C'est un véritable enfer. Alors là aussi, il y a un truc qui est bizarre, qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, mais ça se met en place. Les écolos. C'est ma marotte, les écolos.
Ouais, ouais, j'ai compris, ouais.
Ils disent, il faut arrêter les grands supermarchés, les temples de la consommation, machin. Ils ont raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut arrêter les machins avec les fast-food pourris et tout. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de générer? Ils sont en train de générer le fait que les banlieusards ne veulent plus rentrer dans Paris. Ils restent dans leur banlieue. Ok. Et puis, forcément, il y a des trucs qui se développent. Moi, je l'ai vu, là, dans le 93, là, j'ai des potes qui arrivent dans le 93, juste à côté, là, il y a un truc qui s'est ouvert, un grand centre commercial, avec des restos, un cinéma, des machins, des trucs. Ils vont là. Ils vont dans tous ces trucs-là, dans les temples de la consommation. Et donc, ils désertent Paris. Ils ne viennent plus dans Paris, ils ne veulent plus y aller dans Paris. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? On fait... Paris, comme je disais tout à l'heure, c'est un État, mais c'est presque un État dans l'État. Hein, en fait, bientôt, ça va venir Saint-Marin ou Monaco, quoi, le truc. Hein. et il va d'ailleurs falloir autant de moyens pour y habiter.
Il n'y a pas la mer.
Non, il y a la mer. Madame Hidalgo, il y a la mer de Paris. Et on a la Seine, hein, quand même. Hein. Et on a pêché un silure de 2,50 m. Il n'y a pas longtemps, de 2,10 m. Donc en fait, on est en train de mettre en place toute une infrastructure, un tas de procédures qui font que la ville, ça devient une ville de tourisme. Et pour les gens, c'est très, très, très compliqué d'y travailler. Pour ceux qui travaillent. Alors, il y a un truc, lors du dernier confinement, le Covid. On applaudissait tout ça, hein. Les gens ils sortaient sur leurs fenêtres à 20h, ils applaudissaient les forces de l'ordre, ils applaudissaient les soignants, ils applaudissaient les gens.
Les forces de l'ordre, je suis pas sûr.
Les pompiers,
les infirmières,
ils applaudissaient ceux qui allaient ouvrir les magasins d'alimentation, ils applaudissaient tous ces gens-là qui n'habitent pas à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils étaient bien contents que tous ces pauvres cons, ils viennent travailler pour les Parisiens et qu'ils rentraient dans Paris. Et là, on les applaudissait. Et maintenant, on leur dit, vous n'avez plus le droit de rentrer parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir une bagnole neuve ou électrique. Alors, vous restez chez vous, les gueux.
Et puis, il n'y a plus le Covid.
Et il n'y a plus le Covid, en plus. Voilà. Tous ces gens qu'on applaudissait, aujourd'hui, on n'en veut plus. On marche sur la tête. Non, mais c'est un truc de fou ce qui se passe. Socialement, c'est un truc de fou. Comment peut-on interdire à des gens de circuler, de leur interdire de vivre? Parce que pour certaines personnes, s'ils n'ont pas de bagnole, c'est pas un plaisir pour eux forcément la bagnole. Hein.
Eh ben, on va répondre à cette question après la pause musicale. Ça va te faire permettre de reprendre ton souffle.
Oui.
Il a fait tout ça sans jamais reprendre sa respiration.
Écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était Le King de Vulcain.
Voilà, oui, alors Le King, c'est. C'était pour Kenny Roberts, mais père. Ouais. Parce qu'il y a Kenny Roberts Junior qui a été champion du monde. Aussi, comme le père, mais là c'était, puisque ça date des années 80-84, c'était, voilà, donc ça, il y avait comme surnom le King Kenny, aussi le nain jaune, ça fait mieux le King. Bon voilà, c'est tout pour dire ça.
Pas confondre avec le Kill Kenny.
Ouais,
bien.
Oui.
Donc, on va revenir donc notre émission sur les zones à faible émission.
Et sur les gueux.
Et sur le mouvement des gueux. Donc, on est toujours en compagnie de Jean-Marc Bellotti de la Fédération française des motards en colère.
Enfin, qui a un super t-shirt, parce qu'il faut en parler un peu quand même, parce qu'il nous a dit qu'il ne pouvait pas le montrer, alors on va en parler. FFMC, depuis 1980, au combat. Donc,
quelle
t-shirt noir.
Oui.
C'est incroyable, son intervention des techniciens est absolument ignoble. Non. Donc, un macaron hein, sur le haut gauche.
Les années, les 80, c'est de nos 20 ans.
Ouais.
Oui, les vôtres, oui.
Tiens, c'est pardon. Tu vois qu'elle est mauvaise. Hein.
Jette lui le micro, alors on va en prendre un autre. Parce que... Oh là là. Oh, c'est bon. Déprimant.
Bon, donc ouais. On en revient aux ZFE. Alors, on peut peut-être effectivement... donc du coup, on va peut-être pas répondre à la question tout de suite sur laquelle on a fait une pause musicale, mais peut-être parler effectivement comment s'est construit le mouvement Les Gueux, ouais. Avec qui ça s'est construit. Alors, autour de qui ça s'est construit et avec qui c'est voilà avec qui ça fonctionne, puisque effectivement tout à l'heure tu as évoqué qu'il y avait des diverses organisations, associations. Moi j'ai vu quand il y a des la dernière manif qu'il y avait, l'Union intersyndicale des entreprises foraines
de, ouais, c'est ça, les gens du voyage. Ouais.
Donc il y a la FFMC, l'association des commerçants et artisans de Paris.
Oui.
Et la Ligue de défense des conducteurs, je ne savais même pas que ça existait ça.
Si, Ligue de défense des conducteurs, c'est une association de voitures, enfin d'automobilistes.
Ouais, bah oui, je, voilà. je me doutais bien que ça allait être...
Donc en fait, comment ça s'est passé? Bah, tout simplement, un jour j'ai, je crois que c'est à la radio, je crois, je sais plus, non je regarde pas la télé donc ça risque pas, ça devait être à la radio, je crois pas. J'ai entendu Alexandre Dujardin qui... Alexandre Jardin qui racontait une histoire qui disait ben je viens de découvrir les zones à faible émission, je trouve que c'est un truc totalement antisocial, il faut se battre contre ça machin etc. Et puis il avait pour projet, c'est dans un journal je sais plus, enfin bref, de monter un mouvement avec Daniel Guichard. Pour les gens de jeune génération, ils connaissent, mais pour la technicienne, elle ne doit pas connaître Daniel Guichard.
Elle est partie en courant.
C'est La Tendresse, Mon Vieux, enfin, ouais. toutes les chansons. C'est un chanteur de variété française.
Hein? Il n'y a pas le Gitan?
Il y a le Gitan aussi, c'est un chanteur de variété. C'est un chanteur de variété française. Et puis leur idée, c'était de dire, on va créer un mouvement et on va tourner autour des mairies tous les samedis. Moi, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est un truc qui marchera jamais. J'ai une très grosse expérience de la mobilisation depuis le temps qu'on fait des manifs dans la FFMC. Ça fait 37 ans que j'y suis. Donc, je sais ce que c'est que des mobilisations et qu'est-ce qui fait bouger les gens. Je me dis, mais jamais personne va aller tourner autour d'une mairie en se disant, je vais partir de chez moi, je vais aller à la mairie, je vais tourner, mais ça se trouve, je vais être tout seul. Donc, voilà, effectivement, ça n'a pas marché. Et puis je me suis dit, ce gars-là, il est quand même assez intéressant parce que déjà, c'est un.
Il avait l'air motivé déjà.
Il est très motivé, très motivé. Puis le personnage est intéressant, hein, c'est un écrivain, metteur en scène aussi. J'ai quand même pris la peine de regarder un petit peu son cursus parce que je fais attention avec qui on s'allie quand même. Pour ne pas se salir. et du coup, j'ai vu que c'était un militant dans l'âme, ce garçon. Et il a fait notamment pas mal de trucs par rapport à la lecture, à la culture, etc. Je trouvais qu'il était très intéressant. Et puis, je l'ai appelé. Je l'ai contacté. Par mail, je crois, au départ. Et puis après, on s'est eu par téléphone. Et il m'a dit, OK, on se rencontre. Je dirais, j'étais étonné parce que... Donc on s'est rencontrés et la sauce, elle a pris tout de suite, en fait. Elle a pris tout de suite parce que je connais maintenant depuis trois mois. Hein, et j'ai découvert un gars extrêmement humain. C'est un humaniste, c'est vraiment un mec en plus très apaisé, tout ça. Donc très intéressant. Et en discutant, il m'a expliqué comment... Il s'était aperçu qu'il était mis en place les ZFE. Il était dans une boutique dans son petit village, parce qu'il habite à Paris, mais il a aussi une maison dans un petit village. Et à un moment, il va dans la boulangerie ou l'épicerie du village, je ne sais plus. Et là, à côté de lui, il voit un mec qui discute avec un autre mec et qui est énervé et il dit « Putain, avec leur zone à faible émission, là, à côté de Montpellier, pas très loin de Montpellier, il dit « Je peux même plus aller chercher mes gosses. Je suis divorcé avec ma femme, elle habite dans une ZFE. Et moi, je peux même plus aller chercher mes gosses sans prendre une prune. » Alors, Alexandre Gérin, il entend ça, il dit « C'est quoi cette connerie ?» Puis il discute avec le mec. Le mec lui explique qu'effectivement, lui, il a un véhicule ancien, il n'a pas les moyens de s'en acheter un autre, il est séparé. Et que s'il veut aller chercher son gamin ou le ramener, eh ben, il risque de prendre une prune parce qu'il va rentrer dans une ZFE. Et le mec, il trouve ça complètement ahurissant. Et là, pour le coup, Alexandre Jardin, il dit « Mais c'est un truc de malade, c'est pas possible. » Puis il se renseigne, puis il voit que c'est possible. Voilà, on va dire que c'est un mec qui s'est réveillé à la dernière heure, mais par contre, il fait le job hein, depuis. Hein. Mmh. Donc, on a décidé de travailler ensemble. Pourquoi ? Tout simplement parce que ben, on va profiter les uns des autres, mais de façon saine. C'est-à-dire que lui, il a une bonne portée médiatique, et nous, on a une forte force de mobilisation. Nous, en une semaine, même pas en trois jours, on claque des doigts, on met 1000 motards dans la rue. Mmh. Bon, il faut que le sujet soit intéressant, hein. faut que ça parle de liberté. Voilà. Et bref, on a commencé à travailler comme ça, ensemble, et ça marche très bien. Donc, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Les Gueux, et on a décidé de s'allier comme ça. Donc, dans le mouvement Les Gueux, hein, il y a la FFMC, le mouvement Les Gueux. Mais dans le mouvement Les Gueux, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints, justement, bah, ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Bon, il y a la FFMC, qui nous sommes là depuis la première heure. C'est nous qui organisons les manifs, tout ce qui est au niveau, logistique, etc. On organise tout. Et puis, il y a d'autres assos qui nous ont rejoints. Donc, Ligue de défense du conducteur. Il était déjà en contact avec les forains, avec les gens du voyage, avec M. René Ayoun, le président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France. Ben, ils sont touchés aussi, hein, parce qu'ils ont des camions de troisième génération, par exemple. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des grosses semi-remorques tout neufs. Hein. Donc, ils rachètent des semi-remorques à des routiers parce qu'ils ne font pas beaucoup de bornes avec. Mais ils ont beaucoup de matos à transporter. Ouais. Surtout dans les villes, quand ils transportent la foire du trône, tiens, par exemple. Ben, il faut bien qu'ils transportent les manèges. Ils ont les cirques, ils ont tout ça. Bon, bref, les circassiens, etc. Ils n'ont pas des véhicules tout neufs, quoi. Donc, bah, eux, ouais, ils étaient à fond dedans. Il y a des élus aussi qui nous ont rejoints, Alors, la première monnaïf qu'on a fait ensemble, c'était le 6 avril. Donc là, on a même été rejoints par des élus, parce que les élus eux-mêmes commencent à s'apercevoir qu'il y a un problème. Il y a un maire du Puy-de-Dôme qui a fait 500 km aller, 500 km retour en bagnole. Il a fait 1000 km aller-retour en bagnole pour venir à la manifestation. Là, j'ai halluciné. Et il est venu nous expliquer les problèmes, ces problèmes de la ruralité avec la baisse des budgets, machin, etc. Où le mec, il en pouvait
plus. Du coup, il a pollué.
C'est vrai. C'était moins cher que l'avion. Beaucoup moins compliqué de venir en voiture. Et c'était aussi moins cher que le train de venir en voiture pour lui. Parce que, bah, voilà, il avait pris le truc au dernier moment. Et voilà. Mmh. Donc, mais le mec a quand même fait 1000 bornes, quoi, aller-retour. Donc on a été rejoint par tout un tas de gens comme ça, des élus qui ont souhaité s'exprimer. Alors, on a même été rejoint par Xavier Bertrand, quand même, qui est président des Hauts-de-France, la région Hauts-de-France. Qui, lui, nous a expliqué, et moi je le sais parce qu'il ne nous a pas menti, parce que j'ai regardé un peu le truc, il s'est toujours opposé aux ZFE, lui. Il a toujours été contre les ZFE. Nous, on a surtout tenu à avoir... Alors, il y a des élus qui ont voulu nous rejoindre. Alors, c'était en même temps que les manifs, hein, que la manif du RN qui manifestait parce qu'ils se sont fait dégommer par la justice, et la manif de la gauche et de l'extrême droite, qui était à République, qui manifestait parce que le RN manifestait. Donc on était au milieu, on était mairie de Paris. Il était à des places aux Invalides, au niveau des Invalides. Nous, on était à la mairie de Paris, et après les autres étaient à la République. Voilà. Donc effectivement, médiatiquement, bon, bah, ça, nous, on a un petit peu, on n'a pas été très très reliés parce que, alors qu'on a eu des médias avec nous, mais parce que voilà, les gens ont beaucoup plus parlé des partis politiques que des gens qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Mais voilà, c'est comme ça. On a été approché par certains partis qui nous ont dit, ouais, nous on vient avec vous.
Alors, ce qu'on a fait, parce qu'on veut, on refuse absolument d'être récupéré politiquement, ça c'est clair. Nous, déjà, à la FFMC, on n'a jamais été récupéré politiquement. On a toujours fait gaffe à ça. Et là, on fait attention aussi à ce que ce mouvement légueux ne soit pas récupéré politiquement. Donc, c'est clair, on a dit, vous venez, tous les élus du terrain peuvent venir, quels qu'ils soient, qu'ils soient de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du milieu, du centre, de derrière, de devant, ils peuvent venir, si c'est pour défendre la liberté, parce que ce sont des élus du peuple. Okay.
Si pour défendre les libertés, l'extrême droite, vous n'allez pas en avoir beaucoup quand même. Enfin bon, admet.
Non, mais n'empêche qu'ils sont contre les EDF depuis le début, c'est ça qui est curieux.
Oui, mais ce n'est pas forcément voilà. Pour les mêmes raisons.
Ah oui, bien sûr. Mais par contre, on a refusé tout représentant de parti. Ce n'est pas pareil. Un élu de terrain, ce n'est pas la même chose qu'un cadre d'un parti. Donc on a dit, on ne veut pas de représentation des partis, on ne veut pas de représentants de parti. D'accord. Par contre, les élus de terrain, ceux qui sont élus par le peuple, quels qu'ils soient, peuvent venir sur les manifestations s'exprimer. Voilà. Bon, on n'en a pas eu, à part ce maire du Puy-de-Dôme. Mais voilà. Donc, il faut savoir voilà comment a débuté ce mouvement légueux. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mêmes élus qui ont voté pour ces aidés-feux commencent à faire marche arrière. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une connerie, ils s'aperçoivent que c'est pas forcément ce qu'il va y avoir de plus efficace, et surtout que socialement, ça pose un vrai problème. Donc c'est en débat, en ce moment, à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça devait être le 29 avril. Et puis ça a été reporté... 29 mars, puis ça a été reporté. Et puis, là, c'est encore reporté à nouveau. Alors il faut savoir que les aidés-feux s'est intégré dans la loi de simplification, d'accord, la fameuse loi de simplification, les aidés-feux sont intégrés dedans. Sauf que c'est l'article 15 ter, et que dans la loi de simplification, il y a eu 2500 amendements. 2500 amendements. Donc, la présidente de l'Assemblée nationale en a déjà viré 1500 en disant qu'ils n'étaient pas recevables, ces amendements. Okay. Donc, il en restait quand même 1000. Okay. Donc, quand je suis allé à l'Assemblée nationale, parce que j'ai été invité à aller à l'Assemblée nationale pour assister au débat, j'y suis arrivé, il était 19h, j'en suis reparti, il était minuit, ils n'avaient pas fini. Ils en étaient à l'article 1. Nous, on est le 15 ter, d'accord. Ensuite, il y a eu les vacances scolaires, et les débats reprenaient après les vacances. Donc là, il y a quelques jours, et ils en étaient à l'article 3. Voilà. Donc, le 15 ter, il ne va pas être voté tout de suite, en fait. Voilà. Et puis, ça a été reporté encore. Voilà. Donc, on attend. En attendant, nous, on met la pression. Et en espérant d'être entendus par nos chers élus, pour qu'ils ne votent pas ces aidés-feux qui sont effectivement un truc totalement hors sol. Mmh. Hors sol.
Alors, on avait discuté un petit peu avant l'émission, mais on avait précisé ça en début d'émission aussi. Finalement, la question de la qualité de l'air et puis la qualité de l'environnement, c'est bon pour tout le monde.
Bien sûr.
Et ça, on est tous d'accord. Quels sont les moyens, les pistes que préconise le mouvement pour à la fois concilier, alors c'est une grosse équation, hein, concilier la qualité de l'air pour la population, une bonne qualité de l'air pour la population, permettre aux uns et aux autres de se déplacer, on pense notamment aux populations, alors on n'en parle pas, on a pas moins parlé, mais c'est vrai que dans les milieux, la France très périphérique, on fait parfois 40 km en auto pour aller travailler, hein, pas pour
très
pas
régulièrement,
pour, voilà, pas pour se goberger, mais c'est une réalité et que des jobs, il n'y en a pas tant que ça, donc on veut pas le perdre.
C'est ça.
Donc c'est et ça fait manger tout le monde en général. Donc il y a comment concilier ça avec toutes les formes de pollution industrielle aussi, parce que tu en as parlé, tout le monde n'a pas de sur sa Twingo des freins avec des en carbone qui limitent le frottement et et permettent de limiter les nombres de particules. Alors, quelles sont les pistes que vous avez en tête.
Alors, j'ai envie de dire que on ne devrait pas avoir de pistes. On ne devrait pas avoir de pistes parce que on en a, mais ce n'est pas notre job. À un moment donné, il y a des mecs qui sont là pour penser, qui ont fait une école qui s'appelle l'ENA, pour la plupart, encore une fois, qui ont des conseillers dans tous les sens. Ils devraient quand même pouvoir travailler pour le travail pour lequel on les paye et on vote pour eux, c'est-à-dire trouver des solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la solution, elle est déjà en place. C'est-à-dire que, concernant les ZFE, puisqu'on considère, et que ce n'est pas la réalité en plus, mais on considère que le transport fait partie, c'est une grosse partie de la pollution, mais le transport en général, pas uniquement le transport routier. Il y a le transport aérien, il y a le transport maritime surtout. Le transport maritime, le mec, il fonctionne au fuel brut. Hein. C'est, ça envoie du gaz, hein, le truc. Hein.
Mais je crois que justement, le transport maritime pollue plus que le parc automobile mondial. Je ne sais plus où j'avais vu ça.
Ouais, alors c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas faux.
Ça nous fait plaisir de le dire.
Voilà.
Pour dire que c'est des industries. Ouais. C'est des industriels qui polluent certainement le plus.
Ouais,
en fait,
bien sûr, donc, évidemment. Donc, alors maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus de normes qui sont mises en place. Ça ne vous a pas échappé. D'ailleurs, en France, on a des pays les plus normés. Voilà, donc il y a beaucoup moins de pollution. Enfin, de moins en moins, il y aura de la pollution de la part des industries parce qu'elles commencent à prendre, conscience. On ne peut plus faire n'importe quoi. Bon, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain non plus. Hein, parce que quand on parle d'industrie, on parle aussi de projets sur le long terme, parce qu'on ne change pas industriel, il ne va pas changer la donne comme ça d'un seul coup. Il y a de l'économie derrière, il y a des salaires, il y a tout un tas de choses, il y a des procédures à mettre en place, c'est toujours très long. Bon, il y a le parc automobile qui se renouvelle, ce que je disais tout à l'heure. Il va se renouveler, tout à fait naturellement, et les vieux véhicules mourront de leur belle mort. Il y a déjà la plupart des zones à faible émission qui sont, ça y est, elles sont en dessous du seuil toléré. Et il faut pas oublier, parce qu'on nous parle de 40 000 morts, j'ai vraiment bien savoir d'où sortent les 40 000 morts, parce que dans la communication, on dit 40 000 morts. Déjà, c'est 40 000 morts potentielles qui auraient pu être évitées. Mais avec des pathologies supplémentaires. C'est un peu comme le Covid, voilà. Voilà, c'est la même chose. Il y a des morts du Covid, mais il y en a beaucoup qui sont morts parce que ils avaient d'autres pathologies, machin, etc. Voilà. Donc c'est 40 000 morts, nous les rabâchent constamment. C'est pas 40 000 morts qui parlent pas, mais c'est 40 000 personnes qui décèdent comme ça tous les ans à cause de ça. Non, c'est la pollution est un facteur aggravant. C'est comme quand on nous parle de vitesse. Hein. On nous parle, les gens, ils vont trop vite, ils se tuent. Non, ils se tuent pas parce qu'on va trop vite. C'est la vitesse, c'est un facteur aggravant. Et c'est souvent pas la cause de l'accident. La cause de l'accident, c'est le comportement, c'est l'infrastructure, c'est plein de choses. Mais la vitesse, évidemment,
c'est l'alcoolisme.
Hein, l'alcoolisme, bien sûr, aussi, oui, bien sûr. Et les stupes, aussi. Hein. Ouais. Mais la vitesse, les médicaments, aussi. Et la vitesse aggrave. Mais ce n'est pas forcément le... Par exemple, on va prendre un truc, les autoroutes. On sort du sujet vite fait, mais les autoroutes. Est-ce que vous savez quelle est la plus grosse raison de mortalité sur les autoroutes? Non. Je vais vous le dire.
Tout confondu, motard et automobiliste.
Tout le monde sur les autoroutes.
Non, vas-y.
C'est l'endormissement.
Ah oui, oui,
c'est l'endormissement. Oui. Parce que aujourd'hui, on a des bagnoles de plus en plus récentes, qui sont des vrais salons roulants. Un exemple, tu prends l'autoroute avec ta 4L. Tu le sens bien que tu es sur l'autoroute là. À 110, ça vibre dans tous les sens. Tu as un bruit de fou, t'arrives, t'es sourd. Hein. Tu prends l'autoroute dans un gros SUV dernière génération. Pas de marque. Avec tout ce qui s'allume tout seul là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es plus acteur de ta conduite. Tu attends que ça se passe. Les feux, ils s'allument tout seuls. Les rétroviseurs, ils se règlent tout seuls. Les essuie-glaces, dès qu'il pleut trois gouttes, ils s'allument tout seuls. Bref, tout se fait tout seul. Dans ces gars-là, mon gars prend le train. Hein. Voilà. Bref, mais tout ça s'allume tout seul. Le mec ou la nana qui sont dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment à un moment donné. En plus, à 130. Hein. À 130 dans un véhicule qui est complètement aseptisé, tu n'as plus aucune sensation, tu te fais chier.
tu regardes un peu la télé, sur ton, parce qu'en plus, maintenant, ils ont la télé hein, dans le truc. Hein. Tu regardes la télé, tu téléphones, tu fais ton boulot, machin, et bam, et à un moment donné, tu cartonnes, parce que soit tu t'es endormi, soit tu n'as pas vu qu'il y avait un gros camion jaune avec des mecs en fluo, là, qui étaient en train de réparer l'autoroute. Voilà. Donc, en gros, voilà, la facteur, la vitesse sur l'autoroute, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas du tout parce que tu peux rouler à 160 sur une autoroute, il n'y a personne. Si tu es extrêmement vigilant, il ne va pas t'arriver grand-chose. Sauf si tu crèves un pneu. Voilà.
Il faut être équipé en conséquence aussi.
Il faut être équipé en conséquence.
C'est pas que tu as 4 ailes que tu vas... Nous racontons pas d'histoire, s'il te plaît.
Tu as 4 ailes avec un moteur de turbo, de R5 GT turbo peut-être, mais dedans. Mais non, voilà, en fait, voilà, y a les facteurs aggravants. Donc, pour en revenir à ça, effectivement, la pollution, c'est un facteur aggravant. Mmh. Mais qu'on arrête de nous servir les 40 000 morts. Alors je suis pas je suis d'accord avec ça, bien sûr, parce qu'il faut pas non plus nier, être dans le déni, hein, bien sûr. Mais en tout cas, les seuils de pollution sont largement descendus, et à Paris, et dans toutes les grandes villes, et dans toute la France pratiquement, depuis en 10 ans, les seuils de pollution sont tous descendus. Voilà, on est en train de gagner en qualité de l'air partout. Et après, quand on nous parle, excuse-moi, quand on nous parle, par exemple, à Paris, alors ça me fait marrer parce que on nous parle de mortalité, de machin, etc. Mais Paris, c'est la ville en France où l'espérance de vie est la plus importante. Pourquoi ? Mais c'est encore une question de moyens. Parce que c'est là où tous les médecins sont et c'est là où tous les gens ont le plus de moyens pour se payer des spécialistes. Les pauvres gueux qui habitent en province, ou en tout cas dans les villages, non seulement une désertification, il n'y a plus de toubib, d'ailleurs tous les maires essaient de faire ce qu'ils peuvent, ils se prostituent pour essayer de trouver des toubib, et les gens n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer un spécialiste. Voilà. Donc ils meurent plus vite et plus facilement que les autres. Voilà. Alors qu'on arrête avec les Parisiens qui pleurent sur leur qualité d'air, c'est eux qui ont meilleure espérance de vie. Voilà.
Sauf ceux qui habitent sur la colline du Crac, parce que forcément ça fait baisser la moyenne, mais on va y remédier.
C'est un quartier.
Effectivement, il y a des. Comment dire ?
Des exceptions, des îlots de résistance.
Des îlots, voilà, cherchez le mot, il y a des îlots.
Mais par exemple, est-ce que le fait d'avoir des véhicules électriques qui se diffusent de plus en plus, alors ça reste cher un véhicule électrique, hein ?
Ouais, puis c'est fabriqué en Chine.
Puis c'est fabriqué à Pétaouchnok, il n'y a pas encore d'industrie. Ouais, voilà. Et puis ça nécessite tout ce qui fait l'objet de conflits à travers le monde, c'est-à-dire les terres rares pour faire des batteries. Ouais. Les batteries, c'est super lourd.
Le véhicule électrique, il ne pollue pas ici. Enfin, il ne pollue pas sur place. Par contre, il pollue là où tu vas extraire toutes les terres rares, etc. Et en plus, de toute façon, elles sont de plus en plus rares, les terres rares. Hein. Il y en a de moins en moins. Et ça va poser aussi un vrai problème.
C'est pour ça qu'à l'échelle mondiale, finalement, la solution du véhicule électrique a ses limites.
Ce n'est pas la meilleure.
Ouais. Et c'est pas la meilleure.
L'hydrogène. L'hydrogène. Après, moi, je suis pas un technicien, mais bon, je suis comme tout le monde, j'ai la presse, j'ai des bouquins un peu spécialisés, je m'intéresse. L'hydrogène, ça pourrait être une solution. Bon,
entre après, 41 et 44, il y avait de l'hydrogène, me semble-t-il.
C'est ça. C'était exactement dans le ciel là-haut. C'était Led Zeppelin.
Vous voulez faire une petite pause musicale?
Ah bah,
mais ça sera pas Led Zeppelin, ça sera pas les Cramps non plus.
Ça va être
Annihilator.
Voilà.
C'est bien dit, Annie là. Ben voilà, je peux pas l'en faire.
Vas-y, envoie
le petit frère de Terminator.
Avec speed. We'll be right back. Eh bien, c'était Annihilator avec Speed dans le monde merveilleux du travail sur Radio Liberté à 89.4 MHz.
Voilà, Annihilator, c'est un groupe, c'est du trash, mais un groupe canadien. Voilà. C'est pas Renault, c'est pas Edith Piaf.
Bon, en pleine mondialisation.
Ouais.
Donc, vous êtes sur Radio Libertaire, à l'écoute du monde merveilleux du travail, et on est en compagnie de Jean-Marc Bellotti de la Fédération française des motards en colère pour évoquer les zones à faible émission.
Et le mouvement des gueux.
Et le mouvement, voilà, des gueux. Le mouvement des gueux.
Donc, on était aux propositions de. Pour faire changer les choses. Tu me disais, il n'y avait pas de programme en quelque sorte.
Non, si, mais il y a déjà des choses qui sont mises en place, surtout. Alors, je dirais, si je voulais être égoïste, quand je dis égoïste, nous, on est une fédération de défense des usagers de motorisés, quand même, des motards, et scooteristes, enfin bref. Mais déjà, nous, on a une solution. On n'arrête pas de le rabâcher. Mais ça, on ne veut pas nous écouter là-dessus. C'est quand même hallucinant. Il faut vraiment avoir de la merde aux yeux pour pas constater que un deux roues motorisé en ville, c'est quand même une solution de désengorgement de la ville, de désengorgement des embouteillages. Quand on voit, alors je stigmatise personne parce qu'ils peuvent pas faire autrement les pauvres, mais quand on voit des automobilistes qui viennent travailler dans Paris avec une voiture où ils sont seuls dedans, ils sont seuls dans une voiture qui fait 2 tonnes, qui a 5 places, on va pas me dire que quelqu'un qui laisse une voiture pour prendre un deux roues motorisé n'a pas déjà pensé à la solution. Et c'est ce qui se passe, parce que à Paris, une ville comme Paris ou même l'Île-de-France, il y a plus de scooters que de motos, par exemple. D'accord ? Contrairement à la province, il y a plus de motards que de scooteristes. Et qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi il y a plus de scooters que de motos dans Paris ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont des automobilistes et qui en ont marre d'être dans les bouchons, de ne pas pouvoir circuler, etc., d'être bloqués. Et ils se sont dit, on va passer, ils sont passés aux deux roues. Ils sont passés aux deux roues. Et ça, c'est une bonne solution. Même au niveau de l'écologie, malgré ce que peuvent dire les écolos, en disant que la moto, c'est polluant. Bien sûr que c'est polluant, on a un moteur thermique. Mais c'est quand même une bonne solution comparée à la voiture. Et il faut se dire qu'un deux roues motorisé dans la rue, c'est pas un véhicule en plus. C'est une voiture en moins. Parce que beaucoup, beaucoup sont des automobilistes qui ont lâché la voiture pour prendre un deux roues motorisé. Et oui, c'est une solution. Quand on échange un véhicule de 2 tonnes, de 5 places, qui consomme, qui est lourd, qui prend aussi 5 places intérieures, mais qui prend aussi de la place à l'extérieur, contre un deux roues motorisé, contre un véhicule qui fait en moyenne 250 kg, qui est optimisé dans son espace intérieur puisqu'il n'y a que 2 places, donc il est forcément occupé à 50%, qui pollue moins parce qu'il roule beaucoup moins à même distance, etc., qui prend beaucoup moins de place parce que dans une place, c'est ce qu'on disait par rapport au stationnement payant pour les deux roues motorisées, sur une place de bagnole tu mets 4 deux roues motorisées. 4 deux roues motorisées. Évidemment qu'on prend beaucoup moins de place. Évidemment qu'on est une vraie solution dans le trafic urbain. Donc ça, c'est déjà une solution. Passer aux deux roues motorisées. Mais là, aujourd'hui, on ne se bat pas que pour nous. On se bat pour tout le monde. Voilà. Malheureusement, on est obligé de se battre pour tout le monde parce que beaucoup de gens ne bougent pas là-dessus. Mais alors, une des solutions, ça serait le deux roues motorisées. Et les autres solutions, c'est qu'encore une fois, le parc il se renouvelle de toute façon, automatiquement. Mais sans violence, c'est-à-dire que sans dire aux gens... T'as encore une bagnole qui peut durer encore 5 ou 6 ans, t'as pas les moyens, on s'en fout, tu vas l'acheter à la casse et tu vas en acheter une neuve. Mais je peux pas, on s'en fout, tu restes chez toi. Voilà, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de laisser les véhicules mourir de leur belle mort. Et notamment, ce que je voudrais dire, c'est que écologiquement, alors encore une fois, les écolos, ils sont contre l'obsolescence programmée. Et encore une fois, je suis d'accord avec eux, parce qu'on va dire que j'aime pas les écolos, c'est pas vrai, je les aime bien. À part pour la circulation, je ne les aime pas. Mais il y a plein de trucs que font les écolos que je trouve bien. Les pesticides, les machins, etc. Ben j'aime bien, je trouve ça bien. Bah, c'est génial.
On ne va pas confondre les écolos et les partis écologistes.
Oui, les partis écologistes, voilà, les écolos fachos. Et en fait, les écolos, ils sont contre l'obsolescence programmée. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Ils font de l'obsolescence programmée sur les bagnoles. C'est pas une machine à laver, le truc. Hein. C'est une bagnole, c'est pire. C'est-à-dire que l'impact écologique pour détruire un véhicule, elle est monstrueuse. Ensuite, ils font reconstruire un, parce qu'il faut le remplacer.
elle est monstrueuse aussi, l'impact. Ou alors, on ne le détruit pas, le véhicule, mais on va le vendre ailleurs, à l'étranger. Ah bon, parce que la pollution, c'est qu'en France, c'est nous qui va polluer ailleurs. Donc, c'est une connerie. Il faut laisser aux gens le loisir de pouvoir conserver leur vieux véhicule jusqu'à ce qu'ils aient les moyens d'en acheter un. Et non pas les forcer, non pas les violer et leur imposer de plus bouffer à la fin du mois pour acheter une bagnole neuve. C'est complètement hallucinant. Ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est des solutions. Ouais.
Puis avoir des vieux véhicules... je parle pour moi.
Ils sont très bien entretenus.
Très bien entretenus, mais j'ai pas forcément envie de rouler avec des véhicules
en plus.
Modernes.
Bah oui.
Et effectivement, alors où effectivement tu vas t'endormir dedans ou dessus, parce que il y a tout le confort. Moi, j'ai toujours souvent roulé avec des vieilles bécanes, mais des vieux trucs, tu vois, qui roulent à 80 même, tu vois, des motos bécanes de 1955. Voilà, c'est un plaisir. Alors, t'imagines 1955, c'est sûr, maintenant, ou une Triumph des années 60.
Non, mais honnêtement, il y a un truc, c'est que... Là, je vais me faire massacrer par mes copains motards. Mais il y a un truc, moi, je ne comprends pas. Si on parle de moto aujourd'hui, ça sert à quoi d'avoir une moto qui fait 170 chevaux? Le truc, c'est plus une moto, c'est un avion. Il te propulse le cul, là, c'est un truc de fou. Voilà. Moi, j'ai des motos, je crois que la plus puissante que j'ai, elle fait 100 chevaux. C'est largement suffisant. Ou alors après, il faut être un pilote de Grand Prix. Parce que de toute façon, en général, quand tu as une moto à 170 chevaux, il y en a qui savent les maîtriser, mais le commun des motards, ils ne l'exploitent pas à fond. Donc ça ne sert à rien. Mmh. Ah ouais, c'est vrai, je me suis acheté un beau jouet. Mais c'est comme les bagnoles. Ça sert à quoi d'avoir des bagnoles qui consomment 12 litres, 300, machin, etc. Bon, c'est pour le plaisir, d'accord. Ok, mais maintenant on a changé de génération. Maintenant, il faut faire gaffe à l'écologie. On est d'accord. Mais aussi les constructeurs, peut-être devraient faire des efforts et pas forcément répondre à la demande.
Les bagnoles sont de plus en plus grosses, je ne sais pas si tu as remarqué.
Les bagnoles sont énormes aujourd'hui. Quand tu prends une... Tiens, tu regardes. Je prenais l'autre fois, j'ai vu une DS. Je voyais une DS dans la rue. Te rappelle-toi, à l'époque, les DS, c'était la grosse bagnole. Putain, tu vois une DS, c'était balèze. Hein. Maintenant, tu vois une DS à cause d'un SUV, putain, on dirait un Pins, la voiture.
Ouais, c'est ça.
Elle ressemble à rien. Ouais. À part qu'elle est beaucoup plus jolie, mais sinon, la taille, putain, mais la taille des trucs, c'est des...
Ouais, c'est dément.
Bagnole, c'est incroyable.
C'est ultra lourd.
Ça s'explique. Hein, ouais. Parce que si tu veux, tu as beaucoup plus de sécurité intégrée dedans aujourd'hui. Hein, donc, tu as les moteurs qui sont prévus pour passer sous les jambes, tu as les airbags, les machins, tu as plein de trucs qui font que la voiture est plus lourde, elle est plus grosse. Mais c'est aussi juste pour, répondre à la demande de « j'ai une grosse bagnole ». Voilà. Répondre à la demande d'érection de la population. Voilà, j'ai une grosse bagnole, j'ai une grosse moto, machin. En fait, ça ne sert à rien d'avoir des grosses bagnoles, des grosses bécanes. Déjà, amuse-toi avec une bagnole. C'est déjà, si tu exploites à fond une bécane qui fait 80 chevaux, déjà, c'est bien. Hein, c'est bien.
Est-ce que ça
sorte avec des motos de 60 chevaux.
Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi, en fait, pour répondre à cette espèce d'ascension sociale aussi,
oui, c'est
qu'on
ça,
rêve, on rêve au-delà de du virilisme, c'est dire que voilà, on a une voiture, la marque dont tu as cité le nom au début de l'émission, là, qu'on reviendra pas dessus, mais voilà, si tu as cette voiture là à 50 ans, tu as réussi. Dans certains milieux, c'est quand même ça. Hein.
Paraphraser Seguela avec tes montres,
mais voilà, c'est ça aussi. C'est il y a ton classement social qui va avec, sachant que pour se déplacer une voiture normale.
Après moi j'entends qu'il y a des gens qui ont des enfants, par exemple t'as 3-4 gosses, faut que t'es obligé d'avoir un SUV, 3-4 gosses, voilà.
Pourquoi faire 3-4 gosses?
Ouais, déjà
ça pollue les enfants.
Oui, c'est clair. Mais que toutes les bagnoles, parce que même les citadines, elles sont balèzes.
Ah non, elles sont énormes. Hein.
Tu vois,
énormes,
des voitures de 4 places, tu rentres dedans, t'as, avec tout ce qu'il y a autour, tu te dis, bon, ok, c'est vrai que
c'est pour pallier aussi, c'est plus sûr, mais si c'est pour pallier peut-être le manque de maîtrise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ta voiture, tu adaptes ta vitesse, tu adaptes ta conduite au milieu, à la voiture, à tes capacités, de ton âge, de ta forme du moment, etc. Tu vois, tout ça, c'est des paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein. À moto, c'est pareil. Hein. Donc, je conduis parfois, je prends souvent le périph, parce que j'ai des horaires, justement, où j'ai pas beaucoup de transport. Et je vois des comportements au volant qui sont quand même, et puis pas un ou deux, hein. C'est lunaire, hein. Mm-hmm. C'est lunaire avec des personnes qui, on voit, ont des véhicules énormes, très puissants, et qui forcément montrent qu'ils n'en ont pas tout à fait la maîtrise. Alors, ouais, effectivement, il faut avoir des airbags partout, qui te ceinturent, machin, le moteur qui passe en dessous, les roues qui passent au-dessus, enfin, ouais, t'as intérêt, parce que sinon, au premier choc, t'es rétamé, quoi.
Il faut être vigilant, c'est sûr.
Donc, ouais, ça... Et du coup, on a un peu déresponsabilisé aussi une partie de des usagers des engins motorisés, quoi.
Alors déjà, on les déresponsabilise avec... tout un tas d'électronique, c'est-à-dire et qu'aujourd'hui l'assistance c'est une assistance à outrance. Mmh. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le l'essuie-glace il se mette en marche tout seul. Putain, si t'es pas assez grand pour mettre un petit coup de bouton, un petit coup de doigt sur un bouton pour allumer tes essuie-glaces, c'est que t'as un problème, t'as rien à faire dans ta bagnole. Non mais je veux dire les sièges chauffants, les machins. Bon, ça sert à quoi tout ça? À un moment donné, c'est... Alors, je ne voudrais pas jouer les vieux cons, mais ça sert à quoi?
Mais je crois qu'on
y a même il y a même des motos avec des chaises chauffantes. Là, l'autre fois, un pote qui a acheté une moto, là, il dit, putain, regarde, c'est bien, j'ai les chaises chauffantes. Mais je dis, mais mon gars, si tu as peur d'avoir faux au cul, fais de la bagnole, va prendre le train, mais fais pas de la moto. C'est pas ça, la moto.
Quand tu as une vieille bagnole et puis que tu n'as pas de chauffage dedans, il fait un peu frais quand même. Donc, ouais, je lui conseillerais d'acheter une voiture moderne.
Oui, mais bon, non, mais tu vois, il y a tellement de choses aujourd'hui dans les voitures qui servent à rien. Enfin, qui, moi, servent à rien. Et puis, qui sont avec des écrans. En fait, il faut que tu sois un pilote de chasse aujourd'hui pour rien comprendre et manipuler tous les boutons. Pendant que tu manipules les boutons, tu conduis pas.
Hein. Ouais, c'est ça.
Non, mais donc, tu es un vrai pilote de chasse aujourd'hui. Hein, parce que
je crois qu'effectivement, on est dans une société de divertissement et ça va jusque dans les véhicules effectivement, on t'offre un jouet, en fait. C'est un jouet, c'est comme quand tu as un truc télécommandé. C'est un petit peu ça. T'as pris un petit bouton, t'es content.
Bagnole, ouais.
Et c'est pour encore plus déresponsabiliser, je pense, les citoyens. Moi, j'ai une vision quand même plus. Je suis d'être plus sévère que toi, en fait. On prend vraiment les gens pour des cons. Hein, on essaye de les décérébrer, surtout, pour mieux les contrôler. Et voilà. Donc, bon, je pense que c'est tous ces gadgets dans les véhicules. C'est aussi pour les... Voilà, on va vous satisfaire, effectivement. On va vous... ça attire un petit peu les conducteurs. On les attire avec des gadgets futiles. Mmh. Où il y a même plus... C'est plus le plaisir de conduire qu'il y a. Tu vois, non, que ce soit une voiture ou une moto. C'est... vous allez avoir un véhicule pour aller d'un point à un autre. Prenez les autoroutes, ça va plus vite. C'est un petit peu ça, hein. Tu passes plus par les villages, tu prends l'autoroute, et puis c'est un usage vraiment utilitaire, et absolument pas, c'est pas le plaisir de rouler en fait. Moi je sais le plaisir de rouler. Hein.
Alors non, parce qu'aujourd'hui, si tu dis que tu as plaisir à le rouler, alors là mon gars, tu te fais défoncer. C'est-à-dire qu'en gros,
tu pollues.
T'es un boomer pollueur, salopard.
Alors on peut avoir
de petits poumons d'enfant et tout.
On peut avoir du plaisir à conduire, en étant amené à conduire aussi parce que on n'a pas le choix. Toi, tu peux aimer conduire en allant bosser, par exemple.
Ah, moi, j'adore conduire.
Tu vois, non mais voilà, c'est pas que.
Mais si tu dis aujourd'hui que tu as plaisir à conduire.
Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on te fait des itinéraires, on t'impose des itinéraires payants, souvent, enfin que t'as payé, mais qu'en plus qu'on vend des entreprises privées qui font payer le passage pour aller plus vite. Faut que ce soit de l'utile. Tu vois, ton véhicule, c'est vraiment pour aller bosser. C'est pour ça que ils ont tous des vélos électriques. Mais c'est vraiment pour... comment me faire comprendre, plutôt?
Oui,
c'est plutôt ça. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, tu dois plus avoir de satisfaction dans l'objet que tu possèdes. C'est vraiment, faut que ça soit utile. Donc, que tu ailles travailler avec un vélo ou une voiture, ils s'en foutent. Tu vois? Alors que c'est quand même pas la même chose quand il pleut.
Oui.
Et puis ça dépend de la distance. Et puis moi je suis désolé. J'ai une moto que je ne sers plus parce qu'à force d'avoir une amende par jour, au bout d'un moment j'ai arrêté un petit peu là. J'ai levé le pied, je vais attendre de reconstituer un petit peu.
De payer les amendes.
Mais je gagne du temps, je mets moitié moins de temps en allant en moto au boulot qu'en transport, quoi.
Ouais.
Donc, je préfère passer 20 minutes que 40.
Il faut connaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans une ville comme Paris, tu mets moins de temps à vélo qu'à moto.
Ouais, mais pour connaître. Hein. J'ai roulé en vélo quand j'étais gamin, j'en faisais des kilomètres, mais j'ai plus envie. Moi, je viens de province, hein. Je suis pas né à Paris.
Mais non, aujourd'hui, moi, je fais du vélo aussi. Hein. Je roule aussi à vélo. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à mettre au vélo. Alors, j'ai toujours fait du vélo, moi, quand j'étais gamin. Même avant, je faisais du vélo et tout. Depuis que Hidalgo a commencé à ses conneries et à imposer le vélo. Ça m'a bloqué. J'ai arrêté le vélo. Je vais arrêter de faire du vélo. J'ai repris là parce que je me dis, c'est vrai que honnêtement, quand t'as 2-3 bornes à faire dans Paris, moi j'habite aussi dans Paris. Quand t'as 2-3 bornes à faire, mon réflexe c'est de prendre la moto. Des fois je me dis, bah non, c'est con, non, je prenne le vélo quoi. Déjà c'est bon. C'est bon physiquement. Et puis je m'aperçois que je vais plus vite. Et que je peux cramer tous les feux, que je peux faire ce que je veux, puisque personne ne va rien me dire.
Aujourd'hui, il y a des petits panneaux pour cramer les
feux. Même quand tu n'as pas le panneau, les mecs
sont. Petit triangle.
Le comportement des cyclistes aujourd'hui dans Paris, c'est un truc de fou. Hein. Donc tu dis, ok, personne ne va rien me dire, je n'ai pas de plaque d'immatriculation, je ne vais pas prendre de prunes. Voilà. À moto, je fais vachement plus gaffe. Mais voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est une promesse de campagne d'Hidalgo. Son but, c'était de faire une ville cyclable. Ils ont plutôt pas mal réussi là-dessus. Alors, au détriment des autres, malheureusement. Bon, après, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était le tout voiture. Les embouteillages qu'on pouvait avoir dans les années 70-80, c'était infernal quand même.
Les années Pompidou.
Voilà, donc le tout bagnole, ça ne pouvait pas continuer à exister non plus. C'est vrai qu'il faut reconnaître que... Mais bon, là, par contre, ils sont un peu violents, je trouve, dans le changement de cap. Ça aurait pu se faire avec un peu plus de douceur et surtout en concertation avec les citoyens. Quoi. Là, Hidalgo, elle travaille toujours dans son coin sans concerter personne, mais bon... Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ville qui est plutôt agréable, qui est cyclable. Et c'est vrai qu'à vélo, tu prends moins de temps, ça te prend moins de temps qu'une moto. Quand t'es parisien, parce que quand t'es le mec qui habite en banlieue, là, tu pleures quand tu rentres, quand tu viens à Paris. Et c'est ça le problème. Et Hidalgo, elle en a foutu, elle, des banlieueurs, puisqu'elle ne bosse pas pour eux.
Chat qui nous dit qu'on arrive au terme de notre émission. Donc on va faire une conclusion rapide.
Ah, c'est le chat. On n'a pas compris le chat, je croyais qu'il y avait un chat. C'est pour ça que je cherchais sur la table. Je dis, putain, j'avais pas vu le chat.
Il y a une espérance, effectivement, qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, ou ça va faire comme les contrôles
techniques? Oui, il y a quelque chose qui se passe, parce que les élus, je ne sais pas si on va gagner, mais en tout cas, les élus, beaucoup font marche arrière. En tout cas, c'est en train de d'en discuter à l'Assemblée nationale. Ça va se voter bientôt. Et il y a une prise de conscience, en tout cas, ouais. Il y a une prise. Tu regardes dans tous les médias, ça en parle. Hein, et effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup d'élus qui disent qu'effectivement, c'est un truc totalement antisocial. En tout cas, on ne peut pas laisser les citoyens. Sur le bord de la route comme ça, laisser une partie de la France sur le bord de la route sans aucune vergogne et juste pour que les riches respirent mieux. On va pas virer les pauvres pour que les riches respirent mieux, déjà qu'ils respirent pas trop mal.
Bonne conclusion.
Voilà, bon, je vais quand même puisqu'Alexandre Jardin a sorti un bouquin qui s'appelle Les hashtags gueux, c'est aux éditions Michel Lafon, c'est sorti en mars 2025 et très court, 48 pages, ça coûte 4,90€.
Numéro 1 des ventes, hein, quand même. Numéro 1 des ventes, ouais.
Ah oui, quand même. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Qu'est-ce que j'avais? Alors, il n'y a pas un rendez-vous le 17 mai à 14h?
J'allais oublier, dis donc, le principal. Effectivement, 17 mai, manifestation contre les zones à faible émission, mairie de Paris, devant la mairie de Paris, c'est-à-dire au niveau de l'avenue de Victoria. Et tout le monde est invité à venir. C'est pas une manifestation de motards, c'est une manifestation avec les cyclistes, avec les piétons, avec les automobilistes, avec tous ceux qui se sont concernés par les ZFE ou tous ceux qui trouvent que c'est une mesure totalement antisociale sont les bienvenus. C'est organisé par les motards, mais c'est ouvert à tous et à toutes.
Okay. Donc c'est le 17 mai à 14h de avenue Victoria, c'est ça. Sur le
qui est
près du parvis de la mairie de Paris.
La mairie de Paris.
Voilà. Ben, on va s'y retrouver. Là, je travaille juste à côté, je pourrais y aller à pied.
Oui. Oui. Ce sera le bienvenu.
on se retrouve le. Je me souviens plus. Dans 15 jours, le 19. Et ce sera la surprise de l'émission, je ne sais pas. Là. Celle d'après, mais pas celle-ci. Merci Bénédicte d'avoir assuré la technique. Merci Eric. Merci Jean-Marc. Et puis tu reviens quand tu veux.
Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole.
Ça nous fait plaisir.
Ah ouais, moi aussi.
Merci, salut à tous et à toutes.
Salut.
Et là, qu'un fraternel, nous réaliserons l'idéal de l'Empire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner! Parce que c'est notre projet! Vive la
révolution!